BFM Business, l'info éco. Léo Dumas.
Bonjour à tous. À la une, Israël a lancé cette nuit une attaque sur l'Iran. Plusieurs explosions ont été entendues près d'une base militaire dans la province d'Ipsahan. Aucun dégât majeur n'a été rapporté. Téhéran, qui a activé sa défense aérienne, dit avoir abattu plusieurs drones. Mais il n'y a pas eu d'attaque par missile. Les installations nucléaires n'ont subi aucun dommage. Israël a prévenu Washington de son attaque, selon des médias américains. Mais les États-Unis n'ont pas approuvé l'opération. L'armée israélienne dit ne pas commenter la situation pour le moment. Et les premières réactions internationales à cette riposte. Cette nuit, l'UE, par la voix d'Ursula von der Leyen, appelle toutes les parties à s'abstenir de toute nouvelle action. La Chine dit qu'elle va continuer à œuvrer pour une désescalade. Un peu plus tôt, le sultanat d'Oman a lui condamné l'attaque israélienne. Ces risques géopolitiques accrus poussent ce matin l'agence S&P à baisser la note de la dette d'Israël. Elle passe de A à moins à A+, ce qui indique tout de même une forte capacité à rembourser. L'agence S&P qui accompagne sa notation d'une perspective négative. Et dans le sillage de ces tensions, séance noire à la bourse de Tokyo, le Nikkei a lâché plus de 1000 points, sa pire chute depuis 3 ans, clôture en baisse de 2,66%. Les indices européens évoluent actuellement dans le rouge. Le point complet sur les marchés à suivre dans Tout pour investir. Schneider Electric en discussion préliminaire pour acheter Bentley System, la société américaine de logiciels est valorisée plus de 16 milliards de dollars. Cette potentielle transaction est stratégique, estime le groupe français, qui indique qu'il n'y a pour l'heure aucune certitude qu'elle soit approuvée ou réalisée. Et puis Apple retire WhatsApp et Threads de sa boutique d'applications en Chine. C'est ce qu'a constaté l'agence Bloomberg. Ce matin, l'administration chinoise avait ordonné ce retrait en raison de préoccupations en matière de sécurité nationale.
Votre rendez-vous avec Shares. Apprenez et inspirez-vous d'investisseurs expérimentés sur la première application conçue et régulée en France.
BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
Vous êtes au cœur de l'émission qui s'occupe de vos finances personnelles, qui vous aide à devenir meilleur investisseur. Que vous ayez déjà un capital et que vous vouliez le faire grossir ou que vous essayez de construire ce capital. On est en direct tous les jours de 10h à midi, mais on est aussi en podcast et on salue tous ceux et celles qui nous écoutent en dehors de nos frontières françaises. Au programme de l'heure à venir, d'ici 10 minutes, nous allons parler immobilier, nous allons parler DPE, passoire thermique, et si vous investissiez dans une passoire thermique, quelles sont les métriques, les mesures que vous devez avoir en tête, guide d'achat ou de renoncement avec notre invité Marie Cœur de Roy. Au programme également, une demi-heure dédiée au halving, vous le savez, tous les 4 ans, la production de Bitcoin est divisée par 2, il y en a déjà eu 3 de halving, le prochain est imminent, d'ici quelques heures, on dit qu'il devrait avoir lieu dans la nuit à venir, alors que le Bitcoin a déjà battu pas mal de records depuis le début de l'année 2024. À quoi faut-il s'attendre à très court terme, mais aussi à plus moyen terme? Nous allons en parler avec nos experts, avec Amaury de Tonquédec, mais aussi Gilles Santacreux et puis Stéphanie Fra, qui seront autour de la table pour dessiner le futur, en tout cas essayer de décrypter les prochaines heures. Et puis, vous le savez, comme tous les jours, nous sommes connectés. Vous êtes nombreux à nous écrire depuis le début de l'émission. Merci pour votre écoute. Vous continuez. L'adresse est direct@bfmbusiness.fr, mais aussi sur LinkedIn, en message privé, comme Jean-Yves et Maëlle qui m'écrivent depuis tout à l'heure. Nous partons à Euronext. Surveillez de plus près ce qui se passe avec notre CAC qui est dans le rouge, hein, et une tendance à la baisse qui semble s'affermir, se confirmer. Et oui, ça s'intensifie, la baisse du côté de Paris. Antoine, racontez-nous ce que fait le CAC 40 depuis qu'on ne s'est pas parlé il y a une heure.
On a effectivement une petite intensification du mouvement baissier. On était sur une baisse de 0,5-0,6%. Là, c'est -0,8-0,74% à l'instant. On est à 7961 points. Alors, sans doute l'effet des fameuses sorcières. Vous savez que c'est une séance où il y a trois types de contrats et d'options sur indices qui vont tomber à échéance. Donc, traditionnellement, des journées un petit peu techniques où on prend des paris pour les semaines à venir. Mais voilà, elle commence avec une énorme pointe de risque géopolitique dans la nuit qui s'est s'est un petit peu estompé, mais qui a fait grimper de manière très très spectaculaire la volatilité. On a un indice VIX américain qui est du côté des 20 points. Donc on sent les marchés extrêmement stressés. Il y a eu des allers-retours, alors très très impressionnants, sur le pétrole. On était bien au-delà des $90 cette nuit sur le Brent, hein, on en a parlé, mais on redescend là du côté des 87, voire même un petit peu en dessous tout à l'heure. L'once d'or fin aussi, qui était monté en flèche au-delà des 2398 $, là à l'instant, on se calme un petit peu. Puis alors, mouvement spectaculaire aussi sur le Bitcoin, qui partait de $63,000, qui est descendu, mais quasiment sous les $60,000 après l'annonce de l'attaque de drones israéliennes sur l'Iran, et qui là est remonté en flèche, et qui est même au-delà des $64,000, hein, sur le dernier décompte. On sent qu'il y a peut-être aussi un petit effet halving, hein, celui dont vous parle Amaury depuis le début de la matinée, et qui devrait avoir lieu la nuit prochaine. Le CAC 40 donc en baisse. Alors à noter, une baisse marquée quand même, c'est celle de Renault, qui perd 3,7% à 47 € au milieu de cette actualité foisonnante. Mais on a quand même un profit warning de Nissan, qui abaisse ses prévisions pour l'ensemble de l'année fiscale. On a Schneider Electric, qui souffre un petit peu de ses annonces autour d'une opération possible aux États-Unis sur Bentley. Le titre perd 2,2% à 210,60 €. On a Edenred qui subit quelques prises de profit, moins 2,36 à 45,83. En revanche, la vedette du jour, c'est L'Oréal, hein, qui gagne 4,15% à 441,20 €. Le secteur du luxe qui revient en fort. Et L'Oréal, après LVMH, prouve sa robustesse, et avec vraiment des chiffres de qualité. Et puis des petites nouvelles de Planisware. La belle histoire d'hier, hein, le spécialiste de la gestion de projets pour entreprises, qui a gagné plus de 25% à l'issue de sa première séance de cotation. On aurait pu se dire qu'il y aurait quelques prises de profit. Ben alors absolument pas. Le titre continue de grimper, plus 0,47%, avec un prix d'introduction qui était à 16 €. On monte à 20,18 € ce matin. Donc la belle histoire se poursuit. Le CAC 40, moins 0,7, on est à 7 965 points. Et du côté de l'euro face au dollar, on cote en ce moment sous 1,07, on est à 1,0650, Lorraine.
Antoine, on le voit, baisse marquée avec les sorcières sur notre CAC. C'est l'heure de votre histoire.
Tout pour investir, l'histoire d'Antoine.
On va parler de notre bonne vieille Europe boursière. Voilà, parce que malgré tout, si on prend un peu de recul, il y a une tendance qui se confirme, c'est l'Europe boursière et notre bon vieux CAC 40, hein, qui résiste et qui commence sérieusement à surperformer Wall Street. J'ai l'impression qu'on va reparler d'LVMH.
Oui, entre autres, hein, parce qu'il n'y a pas que cette raison-là, mais c'est vrai qu'on reste dans le scénario de Goldman Sachs, de Lilia Pétavin, qui est avec nous de temps en temps, qui nous disait, hein, justement, c'est une tendance à suivre. Vraiment regarder cette différence qu'il y a maintenant entre les États-Unis et l'Europe en matière boursière. D'ailleurs, si on regarde bien, si on compare le CAC 40 et le S&P 500, ils font à peu près la même chose depuis le début de l'année désormais. On est à plus 5%. Mais si on regarde ce qui se passe rien que sur la semaine écoulée, on a un CAC 40 qui est à l'équilibre, alors que le S&P 500, lui, perd plus de 4%. Alors, oui, deux raisons à cela, et vous avez raison d'en parler. Déjà, la composition du CAC 40, à savoir une prépondérance du secteur du luxe, avec des publications de qualité ces dernières heures, que ce soit LVMH, que ce soit L'Oréal, qui prouvent que, justement, il n'est pas vraiment à mettre de côté, malgré les incertitudes concernant les cycles économiques. On a toujours des performances extrêmement solides, et c'est ça qui nous immunise un peu contre les contre-performances boursières. Il y a de la solidité sous-jacente là-dessous. L'autre aspect qui commence à devenir un petit peu embêtant et qui nous a perturbé toute la semaine, avant même de parler de la prime de risque géopolitique, c'est une problématique de taux. Parce que voilà, on a une Fed qui de plus en plus donne des signaux au marché que, ben non, il y aura peut-être pas de baisse des taux cette année finalement, au vu du dynamisme de l'économie américaine et des dernières données en matière d'inflation. Il faut sans doute conserver les positions sur les taux un petit peu plus longtemps pour définitivement éteindre l'incendie et provoquer ce soft landing de l'économie américaine qui décidément se fait attendre. Et puis d'un autre côté, une Europe qui, elle, semble se satisfaire des données actuelles et qui semble prête à baisser ses taux dès cet été. Donc on voit que les aspects dynamiques en matière monétaire sont en train de diverger entre Europe et États-Unis. Et ça, bah, ça donne tout un potentiel futur pour les actions européennes, et en particulier les valeurs de croissance, que ce soit le luxe, qui sont très très importantes dans la pondération du CAC 40, mais que ce soit peut-être aussi la techno, hein, avec des entreprises qui seront peut-être un petit peu plus enclines à affermir leur volonté d'investissement, contrairement à une Amérique qui, elle, va pâtir un petit peu de cette situation sur les taux. Ça va provoquer également des effets de change qui pourrait éventuellement nous être favorable d'un point de vue compétitif. Mais cette Europe boursière garde fondamentalement du potentiel. On le voit jour après jour et on a des indices boursiers européens qui vraiment sont résilients et conservent des perspectives peut-être bien plus intéressantes que celles des États-Unis où on se pose énormément de questions.
Et oui, vous avez bien entendu, l'Europe qui peut superformer Wall Street. On est optimiste. Merci Antoine pour cette histoire financière. À retrouver en podcast et en replay sur notre site web et application BFM Business comme l'ensemble des histoires financières d'Antoine. À suivre, on s'occupe de votre propre histoire financière, celle de l'immobilier, votre histoire immobilière avec Marie-Cœur de Rouen, notre invitée. À tout de suite.
Tout pour investir, la place de l'Immo.
Alors c'est vraiment tout pour investir aujourd'hui parce qu'on va vous aider à investir ou pas dans une passoire thermique. On a invité quelqu'un qui va vous outiller avec Marie Cœur de Roy. Bonjour Marie.
Bonjour Lorraine, bonjour à tous.
Notre invité aujourd'hui, c'est le cofondateur de GoFlint, Mihail Gavrilioiu. Ça va ?
Bonjour Lorraine.
Merci
bonjour
d'être avec nous. Vous êtes à la tête de GoFlint et surtout à l'origine d'une grille de lecture pour aider les gens. Les wannabes investisseurs qui pourraient vouloir tout miser ou miser un peu sur l'achat d'une passoire thermique. Bon, on connaît le contexte, Marie.
Bah oui, on connaît
on fait le
contexte,
décompte. Mais on l'a pas.
Moi, j'appelle la régie, je veux le voir, ce décompte. Pourquoi le contexte? Bah parce qu'on a l'interdiction à la location des passoires thermiques qui arrive bientôt. Donc, si on l'a. En 2025, tous les logements classés G seront interdits à la location des comptes puisque c'est au 1er janvier.
Aux nouvelles locations.
Aux nouvelles locations. Oui, attention. Oui, c'est vrai que c'est
si
une.
Si vous avez un locataire, vous pouvez le garder.
Exactement, jusqu'au renouvellement du bail.
Tout à fait.
Quand même. Parce que si votre renouvellement du bail intervient pile au 1er janvier, c'est pas de bol, quand même. C'est pas de bol. Et après, ce sera 2028, si je ne m'abuse, pour les logements F et 2034 pour les logements.
Quelle maîtrise du calendrier, c'est la seule femme de France qui a tout compris.
C'est ça, tout compris, je ne sais pas, mais... Et donc, une fois qu'on a dit ça, on a depuis, allez, j'allais dire plusieurs mois, mais presque plusieurs années, avec des spécialistes de l'investissement qui nous disent il y a des superbes opportunités à acheter une passoire parce que, évidemment...
Mais ça, c'est ce que vous entendez, cher Marie.
Oui, bien sûr, mais c'est ce que tout le monde entend. Vous allez être conseillé par votre... qui va vous dire... Mais, si vous achetiez une passoire thermique, superbe décote, machin. Si, je vous assure qu'il y en a plein qui le conseillent. Du coup, ma question s'adresse à Mihai. Est-ce que je le fais vraiment ou pas? Est-ce que c'est une vraie opportunité d'investir à date dans une passoire thermique?
Ça dépend du marché et ça dépend surtout de votre prix d'entrée. Ce qui va être intéressant avec une passoire thermique, on va avoir deux cas. Alors, le premier, c'était, j'avais une discussion il y a quelques semaines avec une entreprise qui fait de la rénovation et qui me disait donc ça et ça. Pardon, dans le Grand Ouest. Donc en fait, j'écoutais les caractéristiques du bien idéal du point de vue du thermicien. Et ce que j'avais en tête, c'était un Rubik's Cube. Et je lui ai dit, donc en fait, idéalement, il faut habiter au cœur du Rubik's Cube. Comme ça, on n'a aucune exposition à l'air, à la lumière, à rien du tout. Ça l'a fait rire. Je pense qu'on n'habite pas encore dans des Rubik's Cubes.
Un Rubik's Cube ou une grotte, du coup?
Ou une grotte.
Oui. Mon bunker.
Le bunker,
ça c'est pour bientôt par contre.
Mais quand on est sur un projet d'acquisition pour habiter ou pour investir, on va avoir la maison. Et la maison, généralement, c'est moins contraignant parce qu'une maison qui est sur son propre terrain...
Bah, on peut faire ce qu'on veut.
On peut faire plus ou moins ce qu'on veut. C'est rare d'aller se frotter à la mairie, par exemple. On peut faire notamment de l'isolation par l'extérieur, qui est la solution la plus rentable puisqu'on n'a pas de perte de surface.
Et on n'a pas de copro.
On peut toucher son toit comme on le souhaite. On peut faire l'isolation par le sous-sol. La majeure partie, en revanche, des biens qu'on va acheter... Surtout pour investir, ça va être de l'habitat collectif, ça va être de l'appartement. Et là, on va commencer à entrer dans une aire de jeu qui est beaucoup plus intéressante. Parce que l'appartement, il va être souvent dans une copropriété. Donc ça veut dire qu'il faut comprendre qu'on n'est pas seul, on n'est pas maître à bord de son appartement. Si on veut faire de l'isolation par l'extérieur, vous achetez un appartement au 5e étage, la copropriété n'est pas d'accord, la mairie n'est pas d'accord, parce que vous n'allez pas avoir un empiétement en haut de l'immeuble qui va apparaître tout d'un coup. Vous allez faire une isolation par l'intérieur. Ça, c'est une perte de surface.
Alors, juste, on va s'arrêter là deux secondes, Mihai, parce que moi, alors, il faut que je raconte à nos auditeurs et téléspectateurs. On s'est eu au téléphone avec Mihai hier ou avant-hier, je sais plus. Et là, il me dit, Marie, je suis dans mes calculs. En gros, il a pris, mais je ne sais pas combien d'algorithmes ou de trucs. Moi, il m'a perdu à ce moment-là en me disant.
J'ai pris une feuille de papier.
Déjà, c'est énorme. Pour calculer la perte de surface. Quand on fait de l'isolation par l'intérieur, il faut nous donner des exemples concrets, Mihai, parce que parfois on s'en rend pas bien compte. Parce que oui, effectivement, c'est intéressant, on gagne de la valeur à avoir un logement performant, mais si on perd de la surface en échange.
Tout à fait. Prenons un appartement. Vous allez prendre un appartement qui est super d'un point de vue appel, un appartement qui a trois extérieurs. Donc ça va être un immeuble qui va être en bout de rue. Vous allez avoir trois façades exposées au choc thermique. vous allez avoir trois côtés avec des fenêtres, c'est super. D'un point de vue visibilité, vous n'avez probablement pas de vis-à-vis, vous êtes très heureux d'avoir cet appartement-là. Si vous dites cet appartement-là fait à peu près 49 mètres carrés, vous allez avoir trois murs qu'il va falloir isoler par l'intérieur. On avait le débat, est-ce que c'est 10 cm, 15 cm, 20 cm ? Prenons 15 cm.
Parce qu'il y a quoi ? Il y a la plaque de BA13, on s'est dit on en parle ou pas ?
On en parle
et
pas.
À l'intérieur, vous mettez de la laine de roche, de la laine de verre. Voilà. Attendez, parce que pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas forcément experts, aujourd'hui, quand on fait de l'isolation par l'intérieur, ça va jusqu'à combien de centimètres d'épaisseur ?
Jusqu'à 20 en moyenne, okay. En fonction du mur, parce qu'après tous les murs n'ont pas le même choc thermique. Mais si on prend 15 en moyenne, sur cet appartement qui fait 49 mètres carrés, donc c'est un carré de 7 mètres de côté, vous avez trois côtés qu'il va falloir isoler, vous perdez 6,4% de votre surface. Vous perdez 3,2 mètres carrés pour l'isolation. Si on regarde ce qui se passe d'un point de vue marché dans certaines villes, des villes comme Nantes, comme Nice, si vous passez d'un DPEG à un DPED, donc on va dire que ce n'est pas un bien ultra vertueux, mais c'est un bien qui est sûr d'un point de vue réglementaire, vous pouvez espérer un gain de valeur qui va de 5,5 à 6%. Donc là, vous absorbez plus ou moins la perte de surface. Ce qu'on n'a pas pris en compte, c'est le coût des travaux. Le coût des travaux, ça va être des choses plus ou moins contraignantes, parce que qui dit plus d'isolation dit une meilleure ventilation de l'appartement, donc ça va être la fameuse VMC. Vous avez des contraintes sur les fenêtres, et là, est-ce que c'est une fenêtre PVC classique, ou est-ce que la copropriété vous dit, ah ben non, nous on veut des fenêtres de tel type et tel type, et ça peut doubler le prix de la fenêtre, on peut passer peut-être de 1200 à 2400 euros la fenêtre, ça n'est pas neutre dans votre budget. Et ensuite, est-ce que vous êtes éligible à des aides ?
Ouais, ma prime rénov, certificat d'économie d'énergie.
Voilà. Ou en tout cas, ce que vous pouvez faire, mais ça n'est pas une aide, c'est un prêt, c'est l'éco-PTZ, qui est sans condition de revenu, mais c'est un prêt.
Donc, mais Mihai, vous avez oublié quand même deux, trois petites choses, c'est-à-dire à la fois les gains en dépenses énergétiques, et puis surtout, à date, oui, effectivement, la surcote pour un bien mieux noté qu'une passoire thermique, vous me dites, dans ces villes-là, c'est plutôt 5%, mais demain, à mesure que l'échéance, on peut remettre le timing, que l'échéance approche, sans doute que cette surcote, à contrario, la décote, le gap sera beaucoup plus important. Donc, de fait, ma valeur de patrimoniale sera aussi plus importante.
Théoriquement, oui. Théoriquement, oui. Mais à contrario, si je suis dans une ville comme Marseille, comme Paris, comme Bordeaux, ce calcul qui marchait plutôt bien pour Nantes ou pour Nice marche beaucoup moins bien. Parce que là, on a des variations de valeur liées au DPE qui vont de 0 à 2% sur ce type de bien, qui va être un T2 de 40.
Et par contre, un prix au mètre carré qui est tellement énorme, qui là me fait perdre, si je perds des mètres carrés, là.
Ça va vite. Ça va très vite.
Donc ça veut dire quoi, Mihai ? Ça veut dire que je vais pas faire les travaux ?
Non, ça veut dire que là, vous avez tout intérêt à faire comme tout bon investisseur et un investisseur professionnel, par exemple un fonds d'investissement qui achète un immeuble, son premier ou deuxième budget, ça va être l'audit technique du bien. En tant que particulier, on n'a pas ces ressources-là, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà s'appuyer sur l'agent immobilier, parce que l'agent immobilier qui vend une passoire thermique, il a en tête le fait que l'acquéreur a lui-même fait sa propre étude et va chercher à avoir un prix plus avantageux. Donc vous pouvez demander à l'agent quels sont les PV d'AG, quel est ce qu'on appelle le DTG, le diagnostic technique global de l'immeuble qui doit être fait pour tout immeuble de copropriété qui a plus de 10 ans. Donc en fait, c'est des immeubles qui étaient soit neufs, mais certains commencent à vieillir, qui va vous identifier les faiblesses. Pour ces immeubles-là, depuis le début d'année, les copros de plus de 200 lots, mais d'ici 2026, toutes les copros seront obligées d'avoir un DPE collectif qui va vous dire, au niveau de l'immeuble, on peut améliorer la toiture. C'est très bien. On peut améliorer la façade. Une fois de plus, la fameuse isolation par l'extérieur. Et là, ça n'est pas vous tout seul qui vous y collez. C'est toute la copro qui part dans ce projet.
C'est-à-dire que ce DPE collectif va nous donner les feux verts ou les feux rouges sur les travaux qu'on va pouvoir enclencher.
Ou pas, parce qu'ils sont déjà prévus par la copro elle-même. Donc ça n'est pas de l'argent qui va sortir de votre poche, en tout cas directement, parce que peut-être que les budgets ont déjà été votés. Vous allez avoir le plan, alors le PPT, le plan pluriannuel de travaux qui va vous dire dans les 15 prochaines années, voilà là où on veut améliorer l'immeuble. Et quand vous regardez donc ces documents-là, et l'agent immobilier, n'hésitez pas à le solliciter pour qu'il vous dise c'est là, là et là que votre question va être répondue. L'isolation par l'extérieur, c'est le meilleur point qu'on peut faire.
Ouais, enfin vous citiez Paris, c'est quand même avec, je pense évidemment, aux immeubles haussmanniens, là pour le coup c'est mort.
Donc on passe au deuxième point, qui est éventuellement le chauffage de l'immeuble, si tant est qu'il y a un chauffage collectif. Est-ce que la copropriété a prévu des axes d'amélioration ? Le seul point vraiment rouge, c'est si on parle de copropriétés qui sont chauffées au fioul, parce que là, vous allez être très handicapé sur la capacité à faire grand-chose, vous, en tant que propriétaire. Troisième point, pour l'haussmannien, si on est plutôt pareil, en hauteur sans vis-à-vis, ça va être la toiture. Est-ce que la copro a voté elle-même ça ? Ou est-ce que c'est vous qui allez vous arranger avec la copro en disant « Ok, on renouvelle la toiture, ça bénéficiera à l'ensemble de la copropriété parce que le DPE collectif va s'améliorer.
Compris.
Troisième axe d'amélioration. Et quatrième point dont on parle finalement assez peu, c'est l'isolation par le sous-sol qui contribue pour le moins.
C'est quoi l'isolation par le sous-sol?
Donc ça va être par exemple si vous avez des caves, est-ce que vous allez commencer pouvoir je perds mon français. Est-ce que vous allez pouvoir mieux isoler la perte thermique qui va se faire par le dessous de l'immeuble? Parce qu'une cave, c'est froid, c'est humide. Et si, notamment, vous avez des logements en rez-de-chaussée, bah, eux vont être directement affectés par ça. C'est un peu la corollaire de la toiture.
Mais du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire dans ces cas-là, alors on va parler peut-être un peu technique, mais j'imagine que ça intéresse 2-3 personnes qui vivent en rez-de-chaussée, justement.
Vis au rez-de-chaussée, ça m'intéresse tout à fait.
Et ben voilà, c'est pour vous, Lorraine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va supprimer les caves? C'est quoi?
Non,
ça
veut dire que vous allez refaire l'isolation, par exemple, des caves. Si c'est de la pierre brute, vous allez chercher peut-être à faire un coffrage. Qui va permettre...
Mais de fait, on va perdre de la surface sur les caves aussi.
Sur les caves. Vous allez probablement perdre de la hauteur.
Mais c'est un moindre mal.
C'est un moindre mal, en tout cas, si vous êtes en
rez-de-chaussée. Pas mal de caves, notamment, je pense, dans les immeubles parisiens ou dans les villes.
Mais ça, c'est quelque chose que vous ferez plutôt avec la copropriété que vous toute seule, de dire, attendez, moi, je refais toutes les caves parce que j'ai mon...
Juste la cave en dessous de chez toi, quoi.
Mais alors, après, il faut s'assurer que ça corresponde bien à la surface
au boulot,
de
votre
appartement.
Mais c'est ça, comment se faire avoir.
Ça, c'est la difficulté.
Mais du coup, de tout ce que vous nous dites, Mihai, moi, je trouve ça hyper enthousiasmant parce que ça veut dire qu'aussi, on n'est pas complètement contraint de renoncer à des mètres carrés, qu'il y a plein d'autres outils et leviers pour essayer de gagner des notes de DPE. Moi, je voulais quand même démarrer par est-ce que ça vaut toujours le coup ou pas d'investir dans une passoire. Moi, le sujet, c'est ça, c'est comment j'arrive à savoir. Parce que on a commencé cette interview, votre réponse était ça dépend, ça dépasse quoi. Donc à un
ça
moment
dépend de la ville. Moi déjà, j'ai retenu
ça. La ville.
Ça dépend de la ville, ça dépend de la nature de l'immeuble, ça dépend de la nature de la propriété, ça dépend de plein de choses.
Tout à fait.
Et donc, pas mal comme information,
oui,
ça.
Oui, mais le ça dépend, comment je fais pour savoir moi? Parce que l'agent immobilier, vous êtes gentil, mais il n'a pas forcément toujours... Ils savent très bien que je reconnais les compétences et l'expertise qu'ils peuvent nous apporter, mais sur ces calculs, finalement, de rentabilité et d'intérêt...
Ça, c'est à vous de le faire.
Et comment je le fais, en fait?
Vous allez, soit vous avez la chance d'avoir un ou deux artisans que vous connaissez, qui vont venir faire la visite avec vous. Ça va être super parce que l'artisan va vous dire directement voilà les forces, voilà les faiblesses, voilà où on peut améliorer. Vous avez de plus en plus d'outils automatiques qui vous disent donne-moi le DPE et puis je sortirai une estimation de travaux. Ces outils-là, après, il faut faire la triangulation dans l'habitat collectif avec ce qui va être facilement permissible, ce qui peut être interdit par la CoPro ou par les autorités locales qui peuvent dire c'est super l'isolation par l'extérieur, moi je veux pas de votre empiétement. Mais l'avantage de l'agent immobilier, c'est que moi, lire un PV d'AG d'un immeuble que je ne connais pas, ça ne me parle pas plus. En revanche, l'agent va vous dire, c'est le point B, c'est le point 53 et c'est le point 70 qui vous intéresse. Donc au moins, vous gagnez du temps. Mais après, c'est à vous de faire votre analyse, de dire, là, j'ai un risque. Est-ce que je suis confortable ou pas? Peut-être que l'Assemblée a déjà voté par le passé l'isolation par l'extérieur, qui a été retoquée par les autorités locales. Donc là, vous vous dites, ce scénario-là, il est peu probable. Donc je pars plutôt sur l'isolation par l'intérieur, je suis contraint par rapport à ça. Est-ce que la toiture, c'est quelque chose qui a déjà été regardé ou pas par le passé? Est-ce qu'il y a déjà eu des débats? Est-ce que cette amélioration a été rejetée par la copropriété? Parce que là, vous savez du coup que c'est pour vous, si vous êtes sur un bien qui va se situer en
au dernier
hauteur.
Étage.
Et le dernier point, ça reste quand même le marché local dans lequel vous investissez et le type de bien. Ce que l'on voit, en tout cas nous, chez Goflin, quand on a fait l'analyse, c'est que les T1, T2, T3, en ville, sont les biens les moins touchés, en tout cas dont le prix va être le moins affecté par le DPE, parce que c'est là qu'il y a une concentration de demande la plus forte. Si on est sur des surfaces plus importantes, on a plus de marge de négociation. Donc par rapport à votre question en tant qu'investisseur, est-ce que j'achète un T5 qui va être vraisemblablement plus décoté si c'est une passoire thermique, et est-ce que j'en fais une colocation après, pour le louer?
Pourquoi pas, ouais.
Pourquoi pas? Est-ce que j'en fais, donc en fait c'est du co-living, plus ou moins adapté, plus ou moins sur mesure. Est-ce que c'est un bien que j'achète pour moi? Parce que je me dis, j'ai une famille qui grandit et finalement, je fais une bonne affaire sur le prix d'entrée. Ce que nous disent les stats que nous voyons, effectivement, c'est si je veux acheter une passoire thermique qui va être un T2 à Paris, plutôt bien situé, ça ne va pas forcément être le coup du siècle. Sauf si le vendeur a des contraintes particulières qui font qu'il va devoir vendre vite, mais statistiquement... Il y a moins de chances que vous y arriviez.
Pardon, mais pour parler comme sur les marchés, parfois, il faut savoir prendre sa paume, quoi.
Oui, il faut couper sa position, notamment si vous êtes sur un bien qui se déprécie. Donc là, c'est plutôt la problématique du vendeur. Et ce que l'on voit, c'était, je crois, BPCE, qui avait fait une étude en février 2024, qui disait que déjà 67% des vendeurs vendent pour redevenir acquéreurs. Donc certains se disent, ce bien-là, peut-être que je l'ai amorti, donc je peux prendre ma paume, effectivement, je n'irai pas chercher le complément de valeur, parce que les travaux, ça peut être compliqué. Est-ce que je vais trouver l'entreprise RGE ou pas, ou est-ce qu'il va falloir un an pour qu'elle vienne? Mais dans ce cas-là, je ne sais pas à quelle sauce je serai mangé par le marché à ce moment-là. Donc je prends ma paume, et effectivement je réinvestis ailleurs en me positionnant en tant qu'acquéreur, en cherchant moi-même à faire une affaire en tant qu'acheteur de passoires thermiques potentiellement.
Mais ce qui est ultra positif dans ce que vous nous dites, c'est qu'en fait cet exercice de transparence que vous avez fait et que vous oui. appelez tout le monde à faire, qu'on soit vendeur oui. ou acheteur, c'est aussi des outils pour mieux négocier en fait.
Bien sûr.
Qu'on soit acheteur et donc évidemment négocier à la baisse, ou vendeur pour valoriser son patrimoine et expliquer que non, que ça vaut ce que ça vaut.
L'agent immobilier le fera. De toute façon, lui, il va se préparer à être attaqué sur son prix dans un DPE faible.
Il justifie sa prime.
On voit des agents qui incitent de plus en plus les propriétaires à faire eux-mêmes des plans de travaux. Comme ça, lorsque l'acquéreur vient en disant c'est tant, le propriétaire peut dire
potentiel en fait.
Voilà combien ça vous coûte. C'est pas 40 000 euros, c'est 25 000 euros. Alors après, vous pouvez discuter si ça vous plaît ou pas. Mais en tout cas, vous avez une base de discussion, que vous soyez acquéreur et surtout que vous soyez vendeur. Vous avez intérêt à être armé. Parce que l'acquéreur standard, dans le contexte actuel du DPE, va chercher à en extraire de la valeur. Mais c'est normal comme comportement.
Un peu plus de transparence finalement, c'est ce qu'on peut anticiper de ce DPE. Vos conseils pour acheter ou en tout cas, comment dire, évaluer l'opportunité d'achat d'une passoire thermique, c'est de travailler main dans la main si possible avec l'agent ou avec le propriétaire en direct pour décrypter le DPE avec les infos à disposition, évaluer les travaux et le potentiel de ce bien, vérifier le chauffage, ça c'est la clé de voûte. Et puis, bon, on l'entend, se faire accompagner par des professionnels. Je précise que Goflin à la tête duquel vous êtes est une société d'annonces immobilières réservée au B2B, donc ces professionnels vous les connaissez. Vous pensez qu'ils vont avoir la bande passante là pour gérer le chantier que ça va être?
Alors c'est une question qui est, quand on leur pose, qui est assez excellente. C'est que certains se disent c'est une opportunité énorme pour nous parce qu'on a des millions et des millions de passoires à mettre sur le marché avec des vendeurs qui commencent à avoir l'idée qu'il va falloir, comme vous disiez, prendre une paume. Donc, ce sont des vendeurs plus faciles à travailler. Et puis, on voit certains agents qui disent « Moi, je ne veux pas y toucher. » Parce que c'est trop compliqué, c'est trop de maux de tête. Et finalement, j'ai assez de biens qui vont être du B, du C, du D. Je n'ai pas besoin de mettre les pieds dans cette galère.
On va le dire comme ça.
Mais ceux qui veulent y aller, on pense qu'ils vont pouvoir faire de bonnes affaires pour eux-mêmes. Parce que vous avez un terreau avec un acheteur qui va être relativement agressif et un vendeur qui va être relativement... compréhensif.
Mireil Gravy-Louyou avec nous dans Tout pour investir, pour décrypter l'intérêt d'un achat de passoire ou de bouilloire thermique. Merci beaucoup.
Merci
pour
beaucoup.
Ce mode d'emploi. Chère Marie, à lundi.
À lundi.
À lundi pour plus d'immobilier, pour plus de logements, pour plus de DPE, pour plus de chantiers, rénovation énergétique. Cette séquence est à retrouver en podcast et en replay comme l'ensemble de nos séquences immobilières sur notre plateforme et notre site BFM Business. Vous restez branchés, on s'est occupé d'immobilier, on s'est occupé de marché. Maintenant, on va s'occuper de crypto. Une demi-heure pour décortiquer, pour comprendre ce qui nous attend avec le halving, avec notre équipe d'experts, que vous soyez investi ou pas en crypto. Monnaie, on s'occupe de votre culture financière. À tout de suite.
BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumaud.
Tout pour investir dans les cryptos et la blockchain, peut-être. Ces jours spéciaux ou nuits spéciales, puisque dans quelques heures, le halving devrait avoir lieu. Vous le savez, tous les 4 ans à peu près, la production de Bitcoin est divisée par 2. C'est le halving, il y en a déjà eu 3. On attend donc le 4e. Des potrons minés demain, entre vendredi 19 avril et samedi 20 avril, pour ceux qui nous écouteraient à une autre heure du jour ou de la nuit. À quoi faut-il s'attendre à très court terme et puis à plus long terme? Pour en parler, évidemment, Amaury Tonquédec est avec nous. Rebonjour Amaury.
Rebonjour Lorraine.
Aux manettes de cette émission, nous saluons votre professionnalisme, mais aussi aux manettes de BFM Crypto, le club, tous les jours de 15h à 20h. À 15h, à 21h et bien sûr en podcast à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Nous sommes également avec Gilles Santacreux, notre trader avec ses algos. Rebonjour Gilles.
Bonjour.
Du site boursicoté.com, vous avez un peu notre fil rouge technique aujourd'hui avec vous. On va regarder les impacts techniques de ce halving. Et puis Stéphane Ifra de l'équipe CoinHouse. Bonjour Stéphane.
Bonjour Lorraine.
Vous êtes responsable des solutions d'investissement et de la gestion. Avec vous, on va aussi évoquer les sujets macro. Hein, on va essayer de faire un portrait pour que tous ceux qui nous écoutent, qu'ils soient investis ou non en crypto, s'y retrouvent. On va commencer par un peu de définition. On l'a beaucoup dit, Amaury n'en peut plus. Toutes les heures, on vient le voir à la rédaction. Alors, c'est quoi le halving et tout? Bon, Amaury, rappelez-nous rapidement.
Bon, le halving, c'est la diminution par deux des récompenses allouées aux mineurs. Et ça se passe en moyenne tous les 4 ans, tous les 210 000 blocs. Là, c'est le quatrième halving depuis la création du Bitcoin. Et donc, ça nous rappelle que le Bitcoin est rare et qu'il est de plus en plus rare.
Est-ce que le Bitcoin est le symbole de la nouvelle rareté? Vous en parliez hier avec le patron de Paymium.
Pour lui, il dit que en fait, le halving, c'était le gros événement du halving, c'était en 2012, lors du premier, mais que l'événement de cette année, pour lui, hein, pour Pierre Noiset, c'est plutôt les ETF. Les ETF, a priori, devraient avoir, on va en parler, mais un plus gros impact sur le cours que le halving en lui-même. Mais c'est plus une célébration de la rareté dans le monde numérique.
Une célébration. Voilà, nous célébrons ce halving qui arrive en tout cas tous les 210 blocs. Nous allons parler de blockchain. Mais j'aimerais vous poser, Amaury et peut-être Stéphane en plateau, une question. C'est celle de Franck qui nous a écrit au début de l'émission à l'adresse directe @bfmbusiness.fr qu'on salue. Franck qui nous dit tout simplement: j'aimerais savoir si le halving va faire baisser la valeur du Bitcoin.
Alors, si on se réfère au passé, si on se réfère au passé, globalement, l'impact du halving, le jour même du halving, en gros, n'a assez peu d'impact. C'est plutôt, on va dire, sur la longueur après qu'on voit un impact plutôt positif, principalement lié au fait qu'on raréfie l'offre, puisque avant le halving, il y avait un certain nombre de blocs qui étaient octroyés aux mineurs. Le lendemain du halving, ils ont la moitié de ces blocs-là. Et il faut bien voir que ces gens-là sont des vendeurs naturels de Bitcoin, parce qu'il faut qu'ils financent leurs opérations. Sauf que du jour au lendemain, ils ont moins à vendre sur le marché. Et c'est ce qui fait que souvent, 12 à 18 mois après, on a un effet très bénéfique sur les cours.
Des vendeurs naturels de Bitcoin. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour les mineurs, Amaury?
En fait, la question qu'on peut se poser, c'est: est-ce que ce halving-là aura un impact différent des autres sur le prix du Bitcoin? Peut-être. Parce qu'on a un événement exogène qu'on a eu en début d'année, c'est l'approbation des ETF Bitcoin Spot aux États-Unis. Il se trouve que avant les autres halvings, le cours du Bitcoin n'était proportionnellement pas aussi important. Je le rappelle, le Bitcoin a battu son record historique avant le halving, ce qui n'était jamais arrivé. Il se trouve que les mineurs, là, dans quelques heures, cette nuit, on va dire, enfin en tout cas samedi matin très tôt, enfin demain matin très tôt, leurs récompenses vont être divisées par deux. Ce qui veut dire que pour un même travail, leur chiffre d'affaires va être divisé par deux. Ça va moins leur faire mal si on a un Bitcoin à 60 000 dollars plutôt qu'un Bitcoin à 30 000. Donc là, sachant qu'on est particulièrement élevé par rapport aux autres halvings, peut-être que même les Bitcoins qui étaient un peu justes, on va dire, niveau trésorerie et qui n'auraient pas forcément... même les mineurs, pardon, qui étaient un peu justes au niveau trésorerie, qui n'auraient pas forcément bien anticipé, ils ne seraient pas forcément obligés d'en vendre, en tout cas d'en vendre autant. Donc peut-être qu'on aurait une pression vendeuse moindre et donc que le cours baisserait moins à court terme, ou en tout cas monterait plus. Voilà, je sais pas.
Peut-être qu'en termes d'ordre de grandeur, effectivement, on a parlé beaucoup des ETF, qui est quelque chose qui a changé un petit peu la donne sur le marché. Depuis le lancement de ces ETF le 10 janvier, globalement, il y a eu 220 000 bitcoins en net qui ont été collectés par l'ensemble des acteurs qui proposent des ETF. Ça fait une moyenne, alors je crois que c'est à peu près 3 500 ou 3 600 bitcoins par jour. Donc, encore une fois, c'est une moyenne. Il y a des fois, il y a plus de collectes, il y a des fois, il y a moins de collectes. Mais en face, jusqu'à aujourd'hui, par jour, étaient produits 900 nouveaux bitcoins. Demain, il n'y en sera produit que 450 nouveaux bitcoins. Donc on voit quand même qu'il y a une sorte de déséquilibre entre l'offre et la demande. En tout cas, si on ne prenait que les ETF comme acheteurs de bitcoin et que les mineurs comme vendeurs de bitcoin, on voit qu'il y a une sorte de disproportion entre la demande et l'offre. Voilà.
Justement, Stéphane, pour ceux et celles qui nous écoutent, qu'ils soient investis ou pas en bitcoin, en fait, comment ça nous concerne? Là, on parle des mineurs. Déjà, dites-nous, qui sont les mineurs, notamment par exemple en France? Est-ce qu'il y a un profil type du mineur ou de la mineuse de...
Non, alors historiquement, les premiers mineurs, c'était des gens qui avaient juste un simple ordinateur. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de besoin de puissance de calcul. En gros, c'est pour faire du minage, il faut résoudre un problème mathématique et ça se résume à de la puissance de calcul. Donc historiquement, quand il y avait très très peu de gens qui s'occupaient de participer à la sécurisation du réseau, il y avait très peu de mineurs et avec avec un simple ordinateur, on pouvait faire du minage. Aujourd'hui, maintenant, c'est plutôt des très grands data centers qui vont être organisés pour faire ce minage. Et souvent, d'ailleurs, maintenant, il y a des gens qui même se mettent ensemble. Ils font ce qu'on appelle du pooling pour pouvoir résoudre ces problèmes. Et puis, ils se partagent les gains. Parce que plus vous êtes gros, plus statistiquement, vous allez gagner des blocs et plus vous allez pouvoir, quelque part, payer vos coûts d'opération.
Effectivement, comme le dit Stéphane, il faut aujourd'hui une puissance de calcul telle que ça s'est professionnalisé. Maintenant, on peut plus à Paris miner du Bitcoin dans sa maison ou son appartement, en tant que particulier en tout cas, parce que de un, l'électricité est trop chère, puis après, il faut des machines tout simplement de professionnels, c'est un vrai métier. À noter peut-être une remarque, c'est intéressant, c'est que aujourd'hui, on a un peu deux types de mineurs. On a à la fois les très très gros mineurs qui eux vont investir dans des machines très performantes, vont abattre le plus de puissance de calcul possible pour une consommation d'électricité moindre, mais qui vont payer de l'électricité en moyenne plus cher que les petits, eux, qui vont se concentrer principalement sur des énergies renouvelables, mais avec des machines moins chères, moins performantes, mais ils rattrapent le coup, entre guillemets, en arrivant à capter de l'électricité, elle, moins chère. Donc ça va être un peu intéressant de voir tout ça. Et j'avais Sébastien Gouspillou au téléphone, qui est un mineur du Bitcoin, hier, qui m'expliquait, et c'est assez intéressant, qu'en fait, ces gros mineurs de Bitcoin-là, eux, maintenant, c'est devenu des entreprises telles, de taille tellement importante, qu'ils pourraient se permettre, pendant quelques mois, de miner à perte si ça devait arriver, parce qu'ils ont accès à des financements pour certains publics ou privés assez importants, ce qui n'était pas du tout le cas avant.
Bon, on voit quand même cette professionnalisation du minage de Bitcoin. On va y revenir, mais on est avec Gilles Santacreux en duplex. Rebonjour Gilles.
Bonjour.
Gilles, vous êtes trader algorithmique, administrateur du site boursicoté.com. On vous entend souvent sur les sujets crypto, notamment le vendredi sur notre antenne. Qu'est-ce qu'on peut anticiper d'un point de vue technique de ce halving? Racontez-nous ce que vous prévoyez.
Alors, la configuration technique, elle transparaît au travers de l'évolution des cours du Bitcoin. Ce que l'on peut observer, en tout cas récemment, c'est que malgré une perte de dynamique haussière, on a eu une cassure d'un support oblique le 12 avril qui a interrompu une dynamique haussière. Et donc, on est venu s'appuyer sur une zone de support qui est très intéressante. C'est la zone des 61 000 dollars pour un Bitcoin. Et ce que l'on peut observer, c'est que malgré toutes les inquiétudes qui apparaissent aujourd'hui, on a une certaine résilience du Bitcoin et une certaine solidité aussi justement par rapport à ce support. Même cette nuit, on a eu une baisse donc suite à la réplique d'Israël par rapport au contexte géopolitique, et on est venu tester cette zone. Alors on a une zone, on est entre 59 000 et 61 000. Le point bas, il avait été marqué après franchissement de cette zone horizontale le 5 mars, et on est venu tester cette zone et on est vite remonté. Alors, la perspective du halving doit certainement contribuer justement à la solidité de cette zone de support. Et c'est justement en cas de rupture de ce support qu'il faudrait se poser les questions, puisqu'on aurait possibilité d'une accélération d'une dynamique baissière. D'un point de vue court terme, depuis donc la rupture que je vous indiquais tout à l'heure le 12 avril, on est dans une petite dynamique baissière, court terme, mais on est retenu donc par cette zone des 61 000 dollars. Donc clairement, pour l'instant, on reste dans une phase de neutralisation, puisqu'en fait on est dans ce range, donc au-dessus de cette zone de support et entre les points hauts historiques du Bitcoin, donc proche des 74 000 depuis la fin du mois de février. Tant que l'on reste dans ce range, on est dans une phase de consolidation horizontale, mais dans une tendance de fond qui reste haussière. Si on venait à casser les 61 000, on passerait dans une dynamique potentielle de retournement de tendance qui pourrait nous amener à un retour sur les 52 500 dollars pour un Bitcoin. Mais globalement, tant que l'on reste au-dessus des 61 000, petit biais baissier court terme. Mais si on repassait au-dessus des 68 800, on reprendrait une petite option donc positive qui serait confirmée par l'inscription d'un nouveau plus haut historique, donc sur cette crypto-monnaie.
Gilles, à court terme, on le voit, si l'on observe les performances du Bitcoin depuis le pic de fin février, quand il était autour de 73 000 dollars, le Bitcoin, l'arrivée du halving n'a pas, réussi à fournir l'impulsion espérée ou attendue qu'on a pu voir au précédent halving. Est-ce qu'il n'y a pas un petit sentiment de sell the news? Est-ce qu'on n'a pas déjà digéré l'info et finalement ce quatrième halving, il n'a pas les mêmes effets que les précédents?
Je le verrais pas comme ça. On a un contexte qui est peut-être différent. Alors j'ai pas sourcé les contextes, je dirais économiques des précédents halvings, mais on est aussi dans un contexte où sur la plupart des indices mondiaux, on a aussi une perte de dynamique haussière. On rentre dans une phase de stabilisation, voire de consolidation hein, sur d'autres. Et en fait, ce que l'on remarque, c'est que sur le Bitcoin justement, on limite la casse par rapport justement à cette phase de consolidation. Donc peut-être que la perspective du halving, faut toujours se rappeler hein, que les marchés boursiers sont des marchés d'anticipation. Donc en fait, c'est pas le jour du halving où on va constater une hausse, c'est-à-dire que les investisseurs tiennent compte de cet événement peut-être jusqu'à 6 mois avant. Donc c'est ce qui a pu expliquer peut-être la surperformance du Bitcoin, notamment sur toute la période que l'on a eu entre février et mars, mmh. où on a eu une forte hausse. Peut-être que là, on a anticipé justement ce halving et qu'on a donc surperformé et donc connu une forte hausse sur cet actif pour ensuite se stabiliser. Mais actuellement, non. Là, le halving, il est acté. Donc, on est plus sur une phase d'attente, plus sur une zone technique qui dépend aussi de la corrélation que l'on a par rapport au reste du marché, des marchés boursiers mondiaux.
Merci Gilles. Vous restez branché avec nous, Gilles, de l'équipe boursicoté.com. Il y a quand même une question de contexte géopolitique. Cette semaine, Amaury, on a pas mal discuté dans cette émission et puis en préparant nos émissions au quotidien du rôle refuge ou pas que joue le Bitcoin. Quel est votre regard, Stéphane et Amaury, avec la dose, si je peux dire, de risque géopolitique supplémentaire avec l'attaque par Israël de cibles iraniennes cette nuit? Le halving dans ce contexte géopolitique, qu'est-ce que ça donne? Stéphane, peut-être d'abord.
Alors, il y a plusieurs choses. Il y a effectivement le contexte géopolitique, mais il y a également le contexte macroéconomique. C'est-à-dire qu'il faut bien voir qu'en tout début d'année, le marché s'attendait à avoir 7 baisses de taux aux États-Unis et que depuis, ils ont revu très très fortement à la baisse ces anticipations parce que finalement, les données économiques sont bien plus vigoureuses qu'anticipées par la Fed à ce moment-là. Mmh. Aujourd'hui, on n'anticipe plus que 2 baisses de taux. Donc le marché a dû digérer quand même un petit peu cette transition et il faut bien voir qu'une bonne partie de la hausse qu'on a eue sur les 3-6 mois, à la fois sur les cryptos mais également sur les marchés d'actions traditionnels, ont été en particulier alimenté justement par cet espoir de baisse des taux. Pour autant, on regarde, la plupart des actifs risqués sont très très proches de leur plus haut. Et effectivement, très récemment, ça fait une petite semaine, que le marché est influencé par la géopolitique. Voilà. Je suis pas très convaincu qu'on va aller très très loin. Quand on regarde un peu les commentaires qu'il peut y avoir, on va dire, d'un côté comme de l'autre, des protagonistes, on sent bien qu'il n'y a pas une véritable velléité à envenimer plus que nécessaire. Ils ont besoin de montrer un peu les muscles, ils ont besoin de montrer qu'ils sont, on va dire, souverains dans leur état. Je ne suis pas convaincu qu'ils aient envie d'aller vraiment à une confrontation directe.
Amaury, qu'est-ce que vous en pensez?
C'est intéressant de voir la réaction du Bitcoin face au risque géopolitique. On voit qu'effectivement, là je ne parle pas de cette nuit mais du week-end dernier, on a vu une chute du Bitcoin, moins 9, moins 10% à peu près. Bon, encore une fois, à relativiser quand on dézoome, hein, même avec moins 10%, on est à quasiment plus 120% sur un an. Donc ce n'est pas si spectaculaire que ça. Mais il a baissé quand il y a eu les événements géopolitiques le week-end dernier. À l'inverse, l'or, et c'est intéressant, il y a une crypto qui s'appelle le Pax Gold qui est indexée sur l'or, qui elle a monté. En tout cas, elle n'a pas baissé comme le Bitcoin. Donc on a vu que quand il y a un événement comme ça, c'est plutôt l'or qui monte et le Bitcoin qui baisse. Maintenant, de quoi nous protège entre guillemets le Bitcoin aujourd'hui? Je pense qu'à court terme, ça protège pas forcément des risques géopolitiques, mais plus que des risques de perte de valeur de la monnaie d'une manière générale et de l'effondrement de certaines économies. Donc c'est plus aujourd'hui, moi je le vois plus comme une réserve de valeur long terme qu'une valeur refuge court terme contre des risques géopolitiques.
Justement, vous parlez du Pax Gold, pour ceux qui nous écoutent à la radio, PAX plus loin Gold. Ou en podcast d'ailleurs. Flora m'a écrit il y a quelques semaines sur LinkedIn. Elle me dit, vous parlez tout le temps des cryptos, mais surtout du Bitcoin. C'est la plus grosse capitalisation, certes, mais ça n'est qu'une crypto parmi les autres. Quelles conséquences de ce halving sur les autres cryptos, Stéphane?
Alors, historiquement, quand on a regardé, enfin si on regarde un peu en arrière sur les autres cryptos hors Bitcoin au moment du halving, en fait, souvent le halving, c'est le point où la dominance Bitcoin, c'est-à-dire la représentation ou la part du Bitcoin dans l'ensemble des cryptos, atteint un maximum local. Et donc, à partir du jour du halving, en gros, les altcoins ont tendance, historiquement, encore une fois, ça peut changer, mais à mieux se comporter que le Bitcoin. Voilà. Donc, on ne sait jamais, encore une fois, si l'histoire va se répéter. Oui. Mais faute de mieux, c'est potentiellement quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. C'est que c'est pas forcément le Bitcoin qui va bénéficier du halving. Ça sera peut-être les autres cryptos qui vont mieux en bénéficier.
Amaury, votre stratégie altcoin va-t-elle payer?
Non, mais ce qui se passe, c'est que là, effectivement, comme le dit Stéphane, là, on a un record de dominance du Bitcoin sur 3 ans, hein, qui était il y a quelques jours, là, cette semaine, à plus de 53%.
53% donc, de quoi? Dites,
pour 50, ceux qui nous ça veut dire que ça représente 53% de la capitalisation totale du marché crypto, donc plus de la moitié. Donc c'est quand même assez impressionnant. Mmh. Et ce qui se passe, c'est qu'en général, Bitcoin, c'est la reine des cryptos. Quand le Bitcoin monte, tout monte. Quand le Bitcoin baisse, tout baisse. D'ailleurs, on l'a vu, hein, les événements géopolitiques du week-end dernier, Bitcoin perd moins 10%. La plupart des altcoins, parfois, c'est jusqu'à moins 30, voire beaucoup plus. Donc, les autres sont beaucoup plus volatiles, notamment parce qu'ils sont moins capitalisés. Donc, le cours baisse plus facilement et il y a peut-être moins de confiance et d'investisseurs long terme positionnés dessus. Maintenant, comme vient de le rappeler Stéphane, ce qui va se passer, c'est que là, a priori, on a atteint peut-être pour ce cycle-là le pic de la dominance de Bitcoin. Et petit à petit, après le halving, en tout cas dans les précédents halvings, ça a mis plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour que le cours du Bitcoin s'apprécie, le temps que ça infuse un petit peu, entre guillemets. Et dès que le Bitcoin va finalement se stabiliser ou commencer à monter, a priori, derrière, le reste du marché devrait monter, mais beaucoup plus fort, lui, derrière, parce que tout simplement, il est moins capitalisé, donc plus volatile.
Gilles Santacreux, vous êtes en duplex avec nous. Justement, l'effet sur les autres cryptos, d'un point de vue technique, qu'est-ce qu'on doit avoir en tête là, dans les prochaines heures?
Alors, l'effet sur les autres crypto-monnaies, moi, je m'en sers plus pour mesurer justement l'impact du halving sur le Bitcoin. Si on compare avec une autre grosse crypto-monnaie qui est l'Ethereum, ce que l'on peut voir, c'est que sur justement la phase que l'on a d'évolution entre mars et maintenant, on a un biais beaucoup plus baissier sur l'Ethereum que ce que l'on a sur le Bitcoin. Tout à l'heure, je vous parlais de la zone des 61 000 dollars pour un Bitcoin. On a une zone qui est à peu près équivalente sur l'Ethereum à 3 130 dollars pour un Ether. Et ce que l'on observe sur la phase actuelle, c'est que cette zone des 3130 dollars pour un Ether, elle a été cassée sur l'Ether, alors que la zone équivalente, je dirais actuellement, des 61 000 dollars sur le Bitcoin a été préservée. Donc, c'est peut-être effectivement un effet justement du halving qui préserve un petit peu le Bitcoin par rapport à d'autres crypto-monnaies. Mmh. Pour l'instant, en tout cas, ce que l'on observe, c'est que le Bitcoin surperforme l'Ethereum sur une dynamique, je dirais, court terme, et que c'est peut-être lié à l'impact de cet halving. Après, on peut penser que si le Bitcoin est aspiré à la hausse, eh bien, il y aura un phénomène de suivi qui agira sur les autres principales crypto-monnaies, qui pourra donc s'opérer, et on peut constater effectivement une hausse de la part de d'autres crypto-monnaies.
Stéphane ?
Oui, alors effectivement, d'ailleurs, ce phénomène, on va dire, de surperformance des altcoins versus le Bitcoin, on l'a un petit peu vu dans les 6 derniers mois. Il y a une première phase entre, on va dire, octobre et décembre, et une deuxième phase un petit peu avant la consolidation dans laquelle on se trouve, qui a démarré mi-mars, et qui a duré à peu près un petit mois. Pendant cette période-là, on a vu des très très grosses capitalisations, donc hors Bitcoin, qui ont très très largement fait beaucoup mieux que Bitcoin sur des périodes de quelques semaines. On a eu des fois 2, fois 3. Il faut rappeler par exemple qu'un Solana, il a quasiment fait un fois 10 depuis le mois d'octobre dernier, avant de consolider. Voilà. Donc on voit déjà que dans le marché, il y a des velléités de pousser certaines cryptos, des grosses capitalisations, donc pas des toutes petites capitalisations, et ça a déjà un petit peu démarré. Par contre, c'est pas très continu, c'est pas très stable, et ce qu'on peut espérer, c'est qu'à un moment donné, effectivement, ce phénomène se pérennise un tout petit peu plus, mais certainement plus tard dans le cycle. Juste pour revenir après sur ce qu'on peut espérer avec le halving, historiquement, si on regarde les cycles précédents, à partir du moment où il y a eu le halving et jusqu'au top de marché, il y a deux cycles, donc en 2016 jusqu'au top qui a été fait en 2017, le marché a fait x30 entre le moment du halving et le top de marché, et le dernier cycle, donc entre mai 2020 et le top de marché, le marché a fait x8. Donc on voit bien que l'effet à court terme, il est assez difficile finalement à anticiper, et on est beaucoup plus soumis finalement aux news du moment. Par contre, sur les 12 à 18 mois qui suivent le halving, là, on peut espérer une grosse hausse sur le Bitcoin. Sachant qu'en plus, cette fois-ci, il y aura tout le flux institutionnel qui n'existait pas par le passé.
Un petit mot quand même des cours des valeurs dont on est en train de parler pour ceux qui nous écoutent et qui ne voient pas forcément les valeurs défiler à l'écran. Solana se négocie autour des $143. Ether se négocie autour de $3104. Le Bitcoin, vous l'avez sans doute entendu depuis ce matin, est en dessous des $65,000. Amaury, peut-être pour conclure.
Non, mais effectivement, ce qui se passe, c'est qu'on ne sait pas encore si on a eu une alt-season. Ce qui se passe, comme l'a dit Stéphane, et on a eu des belles performances de certains altcoins. Maintenant, je pense que c'était aussi des performances dues à certaines narratives. C'est-à-dire que les alts qui ont le plus performé étaient portées par des narratives qui étaient séduisantes pour les investisseurs, comme l'intelligence artificielle, la tokenisation d'actifs réels. Et effectivement, la question qu'on peut se poser, c'est voilà, avec le halving de Bitcoin, si ça se passe comme dans les cycles précédents, c'est-à-dire que le cours s'apprécie dans les semaines ou les mois après ce halving, on devrait, si ça se passe comme les cycles précédents, avoir de belles performances du reste du marché qui pourraient être largement supérieures, à court terme en tout cas, à celles du Bitcoin.
J'ai Raphaël qui m'écrit sur LinkedIn et qui me dit « Le halving, en fait, c'est une sorte de mise à jour du logiciel de politique monétaire de l'univers Bitcoin. » C'est vrai ?
On peut le voir comme ça, En tout cas, c'est complètement décentralisé, c'est écrit dans le code.
Merci beaucoup à Amaury de Tonquédec que vous retrouverez aux manettes tout à l'heure vers 15h de BFM Crypto, le club. Merci Stéphane Ifra et merci. L'équipe de Coin House régulièrement au décryptage avec nous. Et merci Gilles Santacreux du site boursicoté.com, Gilles et ses algos, pour l'analyse technique de cet événement intergalactique qui concerne le Bitcoin et la blockchain, qui est le halving qui, d'après nos derniers calculs, devrait avoir lieu des potrons minés demain matin, samedi 20 avril, probablement dans la nuit. C'est ça ? C'est toujours le
cas ? Oui, c'est
là,
ça. Il va falloir se lever tôt.
Autour de minuit.
Ah là là, ça ne fait que
Peut-être aujourd'hui alors. Non, ça sera légèrement après minuit, mais c'est autour de minuit.
En parlant de décompte, on est en retard. Sandra Gandon, on va prendre les manettes d'ici quelques secondes avec vous. Sandra, bonjour.
Bonjour, Laurent.
Sandra a investi en crypto-monnaie, mais on ne le dira pas. Quel est le programme de avec vous ?
Alors, on va parler de recrutement, comment on recrute des cadres. On va parler de ChatGPT, comment l'utiliser dans vos commandes et dans vos services clients. On va parler de fiscalité. On a une fiscaliste sur le plateau aujourd'hui. Est-ce que vous vous sentez aussi armée face aux évolutions technologiques dans l'entreprise, dans la gestion de votre organisation? C'est la question qu'on vous pose aujourd'hui. Vous nous écrivez, vous nous posez vos questions à cette adresse avec vous, @bfmbusiness.fr. On y répond jusqu'à 13h à vos questions.
Voilà, ça commence dans quelques minutes. Merci à toute l'équipe cette semaine pour l'émission. Merci à vous toutes et tous pour vos messages. Lundi, nous serons là dès 10h en direct. On parlera de déclaration d'impôts. Tiens, si vous investissez en crypto, vous avez des comptes notamment détenus à l'étranger. On parlera de votre déclaration d'impôt, ça vous concerne, les spécificités de ces comptes. Et puis on parlera aussi de l'or. Pourquoi les prix de l'or grimpent en flèche? Voilà, au décryptage, dans Tout pour investir. Très bon week-end et retrouvez-nous en podcast d'ici là.
Tout pour investir sur BFM Business.